Et comment on peut faire ça? Ben, il y a dans la tradition, il y a souvent des listes, et voilà, je vais vous donner une liste. Il y a la liste des quatre dimensions de l'attention. Et c'est encore une liste vraiment très pragmatique. Donc d'abord, il y a la conscience de notre corps, nous apportons notre attention à notre corps, à ses mouvements, à ses sensations, y compris notre souffle. Donc c'est ce qu'on a fait ce soir pendant la méditation sur le souffle, l'attention sur le souffle. Et en fait, la méditation, c'est un lieu parfait pour le faire. Lorsqu'on est juste assis, on n'a pas besoin de faire autre chose, on n'est pas distrait par d'autres buts, on est juste là, conscient du souffle, conscient du corps, conscient de toutes les sensations. Et nous pouvons ainsi raffiner notre capacité à la conscience. On peut remarquer, apporter notre attention à des sensations de plus en plus subtiles, des choses que si on était en train de marcher dans la rue ou danser dans une discothèque, on ne va pas forcément sentir, pas tout de suite de toute façon. Mais ce n'est pas seulement dans la méditation qu'on peut pratiquer ça, on peut le pratiquer à n'importe quel moment. Et je sais qu'il y en a ici qui aiment bien marcher, pratiquer ça en marchant dans la rue, par exemple. On peut le pratiquer assis dans le bus, ou dans le métro, ou dans le train. C'est très très bien de le pratiquer sur son vélib ou dans sa voiture. Oui, juste d'être conscient de nous-mêmes en tant qu'être physique, avec le corps qui bouge, avec les sensations, avec le souffle. On peut prendre des petits moments dans la journée pour faire ça, ou juste essayer d'en faire une pratique continuelle de ça. Et une façon de le faire aussi, c'est d'essayer de faire une chose à la fois. Je crois que c'est probablement la chose que je prêche le plus, que je pratique le moins, franchement. Et en fait, en préparant cette conférence, je me suis rendu compte à quel point je néglige dans ma vie quotidienne la pratique de l'intégration, en fait. Je prends un peu pour acquis et je ne le travaille pas suffisamment personnellement. Je tolère trop, je crois, le fait qu'il y a des parties de moi qui veulent faire ceci et cela, et le fait que j'aime faire trois choses à la fois. Et en fait, je suis juste en train de prendre conscience du fait que ça va sûrement limiter ma pratique dans tous les autres domaines. Et en fait, je profite de ce cycle pour me rappeler de ça et pour juste aiguiser un petit peu ma propre pratique de prise de conscience. Donc voilà, ça c'est pour le corps, ses mouvements, ses sensations, pour le souffle. Et puis il y a la deuxième dimension, c'est nos émotions, nos pensées, nos motivations, notre conditionnement. Donc tout ce qui est plutôt de la domaine psychologique, émotionnel. Donc pareil, il y a la méditation, il y a la metta-bhavana, la pratique du metta-bhavana, qui souvent on associe avec cette étape-là d'émotions positives. Mais en fait, ça fait partie aussi de notre travail d'intégration, d'unification, parce que c'est dans le metta-bhavana où on commence à découvrir nos émotions, nos réactions émotionnelles à celle-ci ou à une personne ou à une autre. Et commencer à essayer d'unifier nos énergies pour choisir les émotions qu'on met en avant et choisir de ne pas nourrir des émotions plus destructives, plus négatives. Il y a aussi, en fait, avec les mitras en ce moment, pour commencer notre étude, on est en train de partager nos vies. Et en fait, j'ai découvert aujourd'hui que pour certains, c'est assez difficile. Je ne m'étais pas rendu compte que c'est quand même un défi de parler aux autres de sa vie, de d'où on vient, de nos expériences du passé, surtout si on a eu qui ont été douloureux. C'est pas évident de s'ouvrir comme ça. Et apparemment, c'est pas évident de l'écouter non plus. Je dois avouer que moi, j'ai commencé cette pratique à l'âge de 19 ou 20 ans, donc je n'avais pas beaucoup de vie derrière moi. Et peut-être moins de choses difficiles à avouer, je ne sais pas, ou peut-être. Mais voilà, donc j'ai fait de ça une pratique à travers mes années d'engagement dans le mouvement. Donc je n'étais pas consciente de quoi je demandais aux autres, en fait. Mais j'insiste que c'est vraiment une bonne pratique spirituelle. Non seulement pour le partage avec les autres, pour la connaissance des autres et de la partage de nous-mêmes, mais aussi pour la connaissance de nous-mêmes. Parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on le voit un peu différemment. À chaque fois qu'on le fait, on découvre des choses et des schémas, si vous voulez, des liens entre les diverses parties de notre vie, des liens entre nos expériences passées et nous, tels que nous sommes aujourd'hui. Nous découvrons notre conditionnement, ce qui nous a conditionnés à être tels que nous sommes maintenant. Donc c'est vraiment une pratique riche que je vais continuer à encourager, même si c'est un peu dur. Et aussi, je crois qu'une autre façon de pratiquer ça, de cette attention à nos émotions, nos pensées, nos motivations et tout cela, c'est juste tout simplement nous partager avec nos amis spirituels, partager nos réflexions, nos questionnements, nos réalisations, nos moments d'inspiration. Surtout, moi je trouve par exemple, s'il y a quelque chose que j'arrive pas à gérer, ou il y a une expérience douloureuse, ou quelque chose que je ne comprends pas, j'appelle une de mes bonnes amies dans le Dharma et j'explique la situation, elle me pose des questions. Petit à petit, on commence à voir que ce n'est pas dissimilaire à une situation que j'ai vécue il y a un an avec une autre personne, et que finalement, il y a peut-être des habitudes que j'ai par rapport à un certain comportement chez l'autre, et que je commence à prendre et comme ça j'unifie des différentes parties de moi-même, et je commence à être de plus en plus conscient de ce qui me fait marcher, comment la machine marche. Et je trouve vraiment partager comme ça avec quelqu'un d'autre qui est capable, qui commence à nous connaître, qui est capable de nous poser les bonnes questions, qui est capable de faire miroir un petit peu à nous, pour dire, mais est-ce que tu n'as pas fait ça la dernière fois? Est-ce que tu n'as pas une habitude à répondre d'une certaine manière? Est-ce que tu ne pourrais pas prendre plus conscience de ceci ou cela? Et vraiment, pour moi, c'est une pratique très importante, en fait, l'attention à nous-mêmes, nos émotions, nos pensées, notre conditionnement. Et puis, la troisième dimension, c'est de commencer à prendre conscience des choses autour de nous et des autres, et les effets que nous avons sur eux. Donc, commencer avec la nature, avec les choses, les objets. D'abord, faire une pratique de se souvenir où on a posé sa montre. Il y a cette fameuse histoire de la personne qui arrive devant un monastère zen, qui veut entrer, qui traditionnellement se met à genoux pendant 3 jours sous n'importe quelle pluie ou neige ou temps qu'il fait pour attendre. Et puis enfin, après les 3 jours, on peut entrer et puis... les moines en charge me posent des questions pour voir si on est apte à entrer dans le monastère. Et apparemment, ce jeune homme arrive et il attend à genoux, et il se trouve qu'il pleuvait, donc il est là à genoux 3 jours sous la pluie, et puis finalement il entre. Et l'abbé lui dit, vous êtes bien arrivé, il pleuvait quand vous êtes arrivé, oui. Vous avez un parapluie? Oui. De quel côté de la porte est-ce que vous l'avez laissé? Ah, je ne me souviens plus. Revenez quand vous pouvez vous en souvenir. Donc voilà, la prise de conscience des choses, l'attention aux choses, c'est une pratique bouddhiste. Savoir où vous avez posé vos clés, votre montre, votre téléphone portable. Savons quel temps il fait quand on marche dans la rue. Remarquez que qu'un tel a changé sa coupe de cheveux. Remarquez que un magasin ferme ou je ne sais pas quoi, les choses qui se passent autour de nous, être conscient des choses, être conscient de. Ouais, c'est le printemps qui commence tout juste avec les fleurs qui poussent. Non seulement c'est un plaisir, mais c'est une pratique de, ouais, d'être présent dans ce qui est là, ici et maintenant. Et en fait, le Kirti qui était là pour faire ce week-end avec nous, week-end juste passé, il disait que depuis qu'il commence à pratiquer plus de conscience de son corps, c'était le week-end était axé sur ça, la conscience du corps dans la méditation. Mais elle me dit que depuis qu'il fait ça, même dans la rue, à l'extérieur, il remarque d'autres choses. Il remarque le ciel, il remarque les couleurs des choses, il remarque ce qui se passe autour de lui, jusqu'à parce qu'il est conscient de son corps. Donc il est présent. Donc on voit en fait les liens entre tous ces aspects. Donc voilà, les choses, mais surtout les autres, commencer à prendre conscience des autres, à vraiment regarder la personne en face quand on se dit bonjour, pouvoir dire, ah mais il a un air un peu fatigué, ou elle a un air bien aujourd'hui, ou elle a changé de coupe de cheveux, ou juste ouais, être plus conscient des autres, pour être plus attentif à eux, à leurs besoins, à leurs sentiments, à leurs émotions, à eux en tant que personne. Pas juste la personne qui va nous vendre ce que nous voulons acheter, ou la personne qui nous empêche d'entrer dans le métro parce qu'il n'a pas assez de place et qui ne veut pas se mettre plus loin. Oui, d'arrêter de voir les personnes en tant qu'objets, en tant que choses qui nous servent, ou qui nous empêchent, ou qui nous entravent, ou qui entravent notre chemin, mais de voir les personnes en tant que personnes, comme nous aimerions être vus, j'imagine. Et voir petit à petit le lien entre nous et notre environnement, entre nous et les personnes qui nous entourent, l'effet que notre présence, que nos actions ont sur eux. Juste prendre conscience de tout ça, c'est déjà un grand travail, mais c'est faisable. Et donc ça, c'est vraiment une façon d'apporter la pratique de notre méditation dans la vie quotidienne. On commence à voir, ben voilà, c'est pas juste ce qu'on fait sur le coussin, mais c'est ce qu'on fait à chaque moment de notre vie. Et puis la troisième dimension, c'est la réalité, le dharma, la vraie nature des choses. Et là, pour cela, d'abord, il faut connaître en théorie le dharma. Donc il faut apprendre, il faut la lecture, il faut l'écoute, la discussion, la découverte de ce que c'est le dharma, ce que c'est la théorie, si vous voulez. Mais après ça, il faut aussi réfléchir là-dessus pour être sûr qu'on le comprend, être sûr qu'on sait ce que ça veut dire l'impermanence, qu'est-ce que ça veut dire la souffrance, bien réfléchir, bien explorer dans notre esprit, dans notre expérience, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je comprends vraiment ça, et puis commencer à le chercher dans notre expérience, appliquer ce qu'on entend, ce qu'on écoute, sur lequel on réfléchit à notre expérience. Pour voir vraiment la nature des choses, pour voir vraiment l'impermanence à l'œuvre dans le monde autour de nous. Ce sont d'ailleurs les trois niveaux d'écoute, trois niveaux de sagesse, pardon, dans le bouddhisme. L'écoute, la réflexion, et puis ce qu'on appelle bhavana, ou le fait de le faire, mais c'est l'expérience, d'en faire l'expérience directement. Donc on voit qu'en fait, juste la pratique de ces quatre dimensions d'attention, ça nous amène déjà très très loin. Si on est vraiment, finalement, on est en train de voir le dharma à l'œuvre tout autour de nous, dans la souffrance des autres, dans la joie des autres, dans les changements qu'on voit dans le temps, dans notre environnement, etc. Donc en fait, en pratique, l'intégration, on développe l'intégration, l'unification par la pratique de l'attention, de la prise de conscience dans tous les aspects de notre vie. Et par les quatre efforts justes, juste pour vous donner une autre petite liste là, je trouve vraiment cette liste très très utile, c'est très simple et très utile, les quatre efforts justes. Donc on essaie de maintenir ce qui est positif, qui est déjà dans notre esprit, l'attention, l'émotion positive, l'ouverture de cœur, le metta. Donc on essaie, si on a déjà ça dans notre expérience, on en prend conscience et on essaie de le maintenir. On fait nos efforts pour le maintenir. Si on remarque qu'il n'y en a pas beaucoup, on essaie de le développer. On essaie de développer plus d'attention, plus de conscience, plus d'émotions positives, plus de générosité, etc. Si on découvre qu'en fait, à la place de la conscience, il y a la distraction, le dispersement, l'irritation, l'impatience, on essaie d'éradiquer ça. On fait son mieux pour arrêter, au moins arrêter de le nourrir, se laisser estomper tout seul, mais sinon à l'éradiquer carrément, d'arrêter d'être irrité, d'être distrait. Et puis on essaie aussi de prévenir de l'arrivée de ces états qui ne nous aident pas. Donc à commencer à savoir que c'est mieux que je n'allume pas l'ordinateur à ce moment-là, parce que je sais que ça va me distraire. Il vaut mieux que d'autres choses. Vous pouvez fournir vos propres exemples, mais commencez à savoir ce qui nous mène dans les états négatifs et les prévenir et ne pas les faire. Donc tout ça, c'est aussi une pratique de l'attention et de l'intégration, parce qu'on commence à savoir qu'est-ce qui nous aide et qu'est-ce qui ne nous aide pas, et mettre ça en pratique. Donc on commence à reconnaître les choses, les activités, les conditions qui entravent notre pratique d'attention et de présence, et nous commençons à les éliminer doucement, parce que nous voyons le besoin, pas parce que Vasika nous a dit de le faire ou parce qu'il y a une autorité quelque part qui va nous punir, mais juste parce que on voit que sinon on souffre. Et donc c'est mieux de le faire. Et nous apprenons à voir ce qui nous soutient, ce qui soutient notre pratique, ce qui nous aide, qui nous inspire à être plus présents, plus attentifs. Et nous essayons de renforcer cela. C'est très pragmatique.